Fréquence protestante. Chant contre chant.
Bonjour et joyeux Noël à tous. En cette veille de l'anniversaire de Noël, où le hasard du calendrier a voulu que se déroule notre émission Chant contre chant, émission sur le cinéma préparée chaque mois par l'association Profil, sur l'antenne de France protestante. Émission qui sera présentée par moi-même, Jean Lot, et j'aurai à côté de moi Françoise Lot. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Jacques Champeau, bonjour Jacques.
Bonjour à tous.
Et Jean-Michel Duquerre, bonjour Jean-Michel.
Bonjour Jean.
Alors, en raison de la date de notre émission, nous aurions bien sûr voulu donner à son programme un air de fête. Hélas, l'actualité cinématographique est ce qu'elle est. Nous avons retenu dans ce qu'elle propose trois films pour notre débat de ce mois. Nous parlerons ainsi de Gloria Mundi, de Robert Guédiguian, puis de Brooklyn Affair, du réalisateur américain Edward Norton. Et nous terminons la phase débat de notre émission avec Une vie cachée de Terrence Malick, qui a reçu le prix du jury œcuménique au Festival de Cannes 2019. Et ensuite, comme d'habitude, nous vous proposerons quatre films qui ont particulièrement retenu notre attention ce mois-ci. Et nous allons commencer avec Gloria Mundi, le dernier film de Robert Guédiguian. Ben, c'est cette fois un univers terriblement désillusionné que nous offre l'auteur de Marius et Jeannette. On est bien loin des lendemains qui chantent. Même si pour faire chanter le futur, il fallait parfois drôlement briquer le présent. L'histoire ici se situe pourtant comme toujours à Marseille. Elle est classiquement centrée sur une famille populaire, constituée ici de trois générations. Il y a le couple des anciens, Sylvie, Ariane Ascaride, femme de ménage, et son mari Richard, Jean-Pierre Daroussin, conducteur de bus. Il y a ensuite leur fille, Mathilda, Anaïs de Moustier, Maria Nicolas, Robert Stévenin, et Aurore, Lola Neymage, en couple avec Bruno, Grégoire le prince Ringuet. Quant à la troisième génération, le film s'ouvre sur son apparition. La naissance, au milieu de la joie de tous réunis, de Gloria, la fille de Mathilda et de Nicolas. Mais très vite, n'est-ce pas Françoise, hein, on se rend compte qu'il y a quelque chose de fêlé dans cette joie.
Oui, quelque chose de fêlé, moi je dirais même quelque chose de tragique si l'on écoute bien, puisque l'arrivée au monde de ce bébé est accompagnée non pas d'un Alléluia, mais du Requiem de Verdi. Alors on n'en croit pas ses oreilles. On se dit, mais il n'y a pas une erreur quelque part? Non, pas du tout. Simplement, les bonnes fées ne se tiennent pas autour du berceau. Les mauvaises fées les ont gagnées de vitesse et elles ont pour nom pauvreté, chômage, jalousie, infidélité, égoïsme, mépris, haine. Et c'est un constat glaçant que fait Guédiguian cette fois, lui qui nous a donné des films où prime la lumière de Marseille, la bienveillance, l'amitié, l'amour de la vie, les copains. Cette fois, Guédiguian est en colère parce que trop, c'est trop. Pour cet homme de gauche, celle de la fin du siècle dernier, mais après tout, c'est quand même pas si loin que ça, la société d'aujourd'hui a perdu son âme. Elle a basculé dans un libéralisme sauvage, dans la violence sociale. Que vont devenir nos enfants, nos petits-enfants, interroge Guédiguian aujourd'hui, soixantenaire. Alors il dessine à grands traits rageurs le spectacle attristant qu'offre une famille de pauvres gens aujourd'hui dans les quartiers déshérités de Marseille. Une famille qui lutte de toutes ses forces.
Sauf qu'ils ne luttent pas tous de la même façon.
Et c'est là peut-être, à mes yeux, le cœur du film. La génération des enfants, à savoir Sylvie et Richard, trime dur pour aider les couples de leurs enfants. Pour eux, la solidarité familiale, c'est un mot d'ordre et ça ne se discute pas. La naissance du bébé ne peut que renforcer leur volonté de ne pas faiblir. Sylvie s'épuise en travail de nuit. Elle garde le bébé le jour quand son gendre se retrouve à l'hôpital et au chômage. Mais voilà, cette générosité ne s'est pas transmise à la génération de leurs enfants. Parce que la précarité a fait son œuvre. Il faut gagner de l'argent, à tout prix. Et de là à privilégier la course à la réussite personnelle, à exploiter plus pauvres que soi. Et pire encore, à adopter le discours de ceux qui vous exploitent, eh bien, il n'y a qu'un pas qui sera franchi. Bien sûr, tous les coups sont permis.
Donc, toute cette noirceur, tu devrais nous parler de Daniel, quand même.
Alors, Daniel, mais quel beau personnage. Merci, Guédiguian, de nous l'avoir inventé. Daniel est incarné par le lumineux Gérard Mélan. Dans le film, il vient de faire plusieurs années de prison quand ça commence. C'est le premier mari de Sylvie. Et c'est seulement aujourd'hui qu'il apprend qu'il est grand-père d'une toute petite Gloria. Alors il est émerveillé, transporté. Parce que Gloria, c'est la gloire du monde à laquelle on a tous droit. Mais en vrai, vous allez voir, Daniel, c'est un ange. C'est un ange qui écrit des haïkus. Et qui, touché par la grâce, va dans un geste ultime, déjouer les plans des mauvaises fées et redonner la vie à l'espérance pour Gloria, la gloire du monde. Je pense que vous l'avez tous compris, ce film m'a vraiment touché.
Oui, apparemment. Jacques, est-ce que toi aussi tu t'es touché?
Oui, j'aime bien Guédiguian. Alors c'est vrai que c'est un Guédiguian très différent de ce qu'on a connu, beaucoup plus noir, et c'est un peu l'itinéraire de Ken Loach d'ailleurs. Moi, j'ai été intéressé, outre le personnage de Daniel, effectivement, par la façon dont ce nouveau Marseille qu'il peint, hein, c'est-à-dire qu'on n'a plus les terrasses ensoleillées, on a du béton, des hôtels minables, des autoroutes urbaines, mais c'est une belle peinture, enfin, c'est intéressant. Bon, la faiblesse, à mon sens, du film, c'est la peinture des personnages négatifs, c'est-à-dire le couple qui réussit, entre guillemets.
Le trop.
Voilà. L'impression que j'ai, évidemment, c'est personnel, mais l'impression que j'ai est que Guédiguian a beaucoup d'empathie pour ses personnages. Et donc, au fond, il n'a pas su faire des personnages négatifs. Il en a rajouté le sexe, dans la drogue, dans l'égoïsme, dans tout. Il suffisait de montrer comment ils exploitent les gens. C'est suffisait. Là, il en a fait tellement que le film, à mon sens, dérape de ce côté et n'est plus très crédible. Ce manichéisme est excessif.
Là, on n'a pas le sentiment qu'il aime vraiment tellement ses personnages, cette fois, justement.
Il aime les autres, si tu veux. Mais il a voulu, par contraste, faire un le fait qu'au fond, les gens qui réussissent ne peuvent être que mauvais. Alors, mauvais à ce point, je veux dire, on n'y croit plus, quoi. Donc, pour moi, c'est là où le film boite un peu. Mais oui, sinon, il est intéressant. On n'y croit plus. On dit, il n'avait pas besoin de faire ça, quoi. Un gars qui réussit et qui exploite ses salariés n'a pas besoin d'être un obsédé sexuel et de drogue pour survivre, quoi.
Non, mais c'est sûr.
Donc il a tout.
Jean-Michel.
Oui, alors, moi, je n'ai pas vu le même film que Françoise. Pas du tout. J'admets que Robert Guédiguian est un homme dont les injustices de notre monde forcent admiration à travers tous les films qu'il a fait, qui, pour ma part, ne m'ont pas toujours touché, mais là, dans ce film, je vais plus loin que Jacques encore, en étant extrêmement déçu par ce que je vois et en m'étant profondément ennuyé, parce que je vois l'accumulation de clichés, à travers un cinéma militant et contestataire, que je ne nie pas, auprès des petites gens, des humbles. Mais son film, sans qu'on y insiste, est vraiment très ringard, et ça, je ne peux pas le supporter. Les situations, les scènes et les sentiments, les comportements sont très attendus, très banaux. Les dialogues et le jeu des acteurs me paraissent mettre mal à l'aise les acteurs eux-mêmes.
C'est un film qui me met mal à l'aise, mais je pense que c'est profondément voulu.
C'est que les acteurs sont mal à l'aise et en paraissent inauthentiques et très antipathiques de ce fait. Le scénario sonne faux et plein de stéréotypes et avec une collection de faits divers qui se succèdent, et comme l'a dit Jacques, tout est rassemblé, et on en rajoute, et on en rajoute, et c'est une mise en scène extrêmement appuyée, avec des scènes qui sont agaçantes de lourdeur, sur lesquelles je n'insiste pas.
Ce côté excessif dont parle Jacques, je trouve que c'est justement la volonté de Guédiguian. Je crois que pour moi, ce film, c'est un coup de gueule, et qu'il a voulu s'en prendre à toute la génération actuelle, et d'ailleurs, ça se divise très bien en deux parties. Il y a le couple plus âgé qui continue à être admirable au sens de Guédiguian, d'apporter des valeurs de solidarité. Et il y a toute la jeune génération qui est profondément marquée par le siècle. Et je crois qu'il exagère justement parce que c'est un coup de gueule. Voilà.
Oui, mais tu peux avoir un coup de gueule. Si tu prends le dernier film de Ken Loach, We Missed You, c'est aussi un coup de gueule.
Exactement.
Mais je trouve qu'il est plus cohérent, il va moins dans ce manichéisme. Et il n'en rajoute pas, si tu veux. Et le scénario, là, je vais un peu dans le sens de Jean-Michel, je serai un peu moins fort que lui, mais le scénario me semble, de Ken Loach, me semble beaucoup plus construit, alors que là, effectivement, c'est un peu une succession de scènes. C'est pas complètement faux.
Ah, c'est un film qui a quand même une profonde humanité.
Oui,
moi, ça m'attriste de voir ce film mis en pièces, lacéré, et jeté à la poubelle. Je pense qu'il vaut mieux que ça, et que, certes, on peut avoir des bémols, mais d'ici à lacérer le film, moi, je trouve que c'est dommage, et que...
Non, mais je ne
c'est
le
dommage,
lacère pas.
C'est dommage. Il y a des choses qui sont belles dans ce film. Et même si le trait... En effet, c'est de la caricature. Hein. Il y va à grands traits, mais de rage.
Oui, bon, oui, la rage, c'est pour lui. Hein.
La description de ces couples excessifs, justement, en particulier le couple de
Bruno et Aurore.
Et Aurore, qui est vraiment excessif dans tous les domaines. Là, mouchant très très loin.
Ou qui regarde ces clips porno et tout ça, c'est vraiment...
Oui, c'est ça que je trouve un peu cliché, tu vois.
C'est moche, c'est sans intérêt.
Mais parce que vous voulez voir un film réaliste, pour moi, ce n'est pas
un film réaliste.
Qui cherche à être... Ken Loach est toujours près du réalisme, ça c'est vrai. Mais lui, il n'en est pas proche du réalisme.
C'est vrai.
Plus loin.
Mais alors on ne sait pas ce que c'est.
C'est presque une caricature de la génération actuelle.
C'est une caricature de quelque chose qu'on voit quand même dans la société d'aujourd'hui, en fonction des différentes générations, cette façon de courir vers ce qui peut, vers la bouée, même en écrasant tout le monde autour.
Peut-être que c'est tout simplement parce qu'on a dans un souvenir, si tu veux, dans nos têtes, un autre Guédiguian, que peut-être que cette caricature, effectivement, ne marche pas. Dans mon cas, n'a pas complètement marché.
C'est ça que je veux dire. C'est très différent.
Encore une fois, il y a des choses très belles dans ce film. Moi, j'ai accroché sur certaines choses. Mais il y a des choses qui m'ont un peu gêné.
Voilà. Bien, maintenant, on passe au film suivant, qui est Brooklyn Affair. Nous allons poursuivre ce film de Brooklyn Affair, qui est un film d'Edward Norton, qui est davantage connu en tant qu'acteur qu'en tant qu'auteur, sa seule réalisation ce jour étant Au nom d'Anna, qu'il avait fait en 2000. Ça date déjà. Donc, dans Brooklyn Affair, Edward Norton adapte Les Orphelins de Brooklyn. C'est un roman de Jonathan Lethem, dont il transpose l'intrigue à New York en 1957. Le protagoniste principal en est Lionel Hezrog, un personnage atteint d'un trouble psychomoteur qui se traduit par de brutales éructations incontrôlées. Lionel est détective privé dans une agence dont le directeur est Frank Mina, un homme que notre héros considère comme son père. Mais voilà que Frank est tué lors d'un rendez-vous avec de mystérieux interlocuteurs. Dès lors, Lionel n'aura plus qu'une idée, le venger. Il se lance dans une enquête qui le fera plonger dans un labyrinthe d'intrigues immobilières de nature mafieuse qui le conduit à se heurter au tout-puissant promoteur Moses Randolph. Jean-Michel, je crois que là, à différence du précédent, tu as beaucoup aimé ce film.
Oui, beaucoup, beaucoup. C'est un souffle d'air frais et intelligent, suprêmement drôle, sur une production cinématographique qui, pour moi, est souvent complaisante, convenue et ennuyeuse. Sur la même époque et dans le même lieu, avait été proposé en 2015 un film de John Crowley, écrit par le bon romancier anglais Nick Hornby, Brooklyn. Une romance assez conventionnelle qui, cependant, a été nommée 3 fois aux Oscars. Ici, il s'agit de tout autre chose. Le protagoniste de ce polar noir et haletant, interprété par le formidable acteur de 50 ans, Edward Norton, qui s'est vraiment identifié à lui et lui impulse toute son énergie, a cependant une singulière vulnérabilité. Il est atteint du syndrome de Gilles de la Tourette, caractérisé par des tics moteurs et vocaux, dont les plus communs sont les clignements d'yeux, la toux, le raclement de gorge, le reniflement, des mouvements faciaux et la production de mots obscènes ou coprolalies. De façon surprenante, cette maladie n'affecte pas les capacités cognitives et n'empêchera pas Lionel Hezrog de débrouiller cette sombre histoire qu'il commente en voix off.
D'accord, mais est-ce qu'on arrive à suivre ce scénario touffu ? Et est-ce que l'intérêt ne faiblit pas ?
De fait, des clubs de jazz de Harlem au taudis de Brooklyn jusqu'au quartier chic de Manhattan, le spectateur peut se perdre en cherchant à comprendre les enjeux de l'enquête de Lionel sur le meurtre inaugural de son mentor et unique ami Frank Mina. Les secrets lourds de conséquences pour la ville de New York, que Lionel découvre grâce aux rares indices en sa possession et à son esprit intuitif et obsessionnel, vont le conduire, pour sauver l'honneur de son ami disparu, à affronter l'homme le plus redoutable de la ville, sorte de baron Haussmann américain, Moses Randolph, véritable figure emblématique de l'urbaniste et promoteur corrompu, ivre de pouvoir, caricatural reflet des banquiers et politiciens sans scrupules qui nous gouvernent aujourd'hui.
J'insiste, au-delà d'un scénario qui ne paraît pas particulièrement original et d'un premier rôle clownesque, qu'est-ce qui te captive dans ce film qui dure quand même près de 2h30?
Eh bien, je me suis régalé tout d'abord de la restitution transposée de l'ambiance noire du New York des quartiers populaires, dans lequel la belle Laura, fille mystérieuse du patron d'un club de jazz fréquenté presque uniquement par des Noirs, accueille la différence de Lionel. J'étais sensible aussi au clin d'œil à Chandler et à ses détectives de ce polar noir qui raconte de façon jubilatoire une époque du cinéma dont il renouvelle les codes avec une mise en scène excitante, des images très richement composé et éclairé, et une bande-son jazzy. Enfin, au-delà du film de genre, j'ai été ému par la réflexion imprégnée d'humour, de tendresse et d'humanisme sur le handicap que déploie ce film. On pourrait certes imaginer que le handicap neurologique de Lionel est une grossière ficelle de cirque pour faire rire le spectateur, version soft du terrifiant Joker qu'interprétait récemment Joaquin Phoenix, dont le héros basculait dans la folie meurtrière. Pour moi, il n'en est rien. Son handicap apporte à ce chaleureux et malin personnage quelque chose de très touchant et d'involontairement très drôle. Du reste, avec quel talent s'en explique-t-il lui-même, avec autant d'humilité que d'autodérision, en des scènes doucement poétiques?
Alors, chers amis, si vous partagez l'enthousiasme de Jean-Michel, Françoise.
J'ai aimé deux choses dans ce film. Je vais commencer par ce que j'ai aimé. J'ai aimé le personnage de Lionel Hesrock, justement à cause de cette vulnérabilité dont tu parles, Jean-Michel. Il a une humanité à laquelle j'ai été sensible, et j'ai aimé voir comment il est accueilli dans les clubs de jazz de Harlem avec justement ce handicap. J'ai eu beaucoup de plaisir aussi aux séquences tournées dans ce fameux club de jazz de Harlem. J'aurais voulu que ça dure plus longtemps. Mon enthousiasme, si on peut parler d'enthousiasme, s'arrêtait là, parce que, comme tu dis, Jean-Michel, on peut se perdre, et moi, je me suis perdue, je me suis égarée très vite. Les indices que nous donne Franck au moment de mourir, c'est incompréhensible. Après, bon, on comprend un peu mieux de quoi il s'agit, c'est pas formose, etc. Ça fait rire. On comprend à la fin, mais je crois qu'il faut une certaine opiniâtreté pour continuer tout au long de ces 2 heures, je sais pas combien, 25, pour continuer de s'accrocher en disant je vais pas dormir, je vais savoir le mot de la fin. Et je me suis épuisée à vouloir comprendre. Et quand j'ai compris, je crois que ça m'intéressait déjà un peu mieux. Donc j'ai pas été un bon spectateur pour ce film. C'est peut-être tout à fait personnel.
Et toi, Jacques, tu as été un bon spectateur?
Ah ben moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Justement par un peu pour les mêmes raisons que Jean-Michel, c'est-à-dire parce qu'il revisite en fait les grands films noirs américains des années 50. Et il les revisite de deux manières, et qui ne sont pas forcément évidentes. La première, c'est d'abord qu'il transpose du noir et blanc à la couleur. Et c'est pas anodin, parce qu'en fait, le film noir des années 50, toute l'atmosphère était liée au noir et blanc. Donc, recréer une atmosphère qui, à mon sens, est très réussie, avec les éclairages, les décors, les tons bruns, etc., les éclairages de nuit aussi qu'il donne, pour moi, c'est déjà une réussite. La deuxième réussite, c'est la transposition du personnage principal, parce qu'on retrouve à la fois le Philip Marlowe ou des grands détectives de Chandler dans ce scénario un peu usé qui est de défendre le copain qui s'est fait descendre. Oui, hein. Mais on le revisite complètement avec effectivement ce trouble psychomoteur qui transforme le paysage, oui. le personnage. Donc, l'intrigue, effectivement, elle est complètement incompréhensible, en tout cas au début. Mais alors là, je dirais que c'est la même chose que tous les grands films. Moi, c'est un classique. Moi, je veux dire, Le Grand Sommeil, on n'y comprend rien
non,
du tout.
C'est pas la même atmosphère.
J'ai dit que le scénario n'est pas plus compréhensible. Est-ce que tu peux me contredire là-dessus.
Je n'ai pas envie.
Dans le grand sommeil, le scénario, on s'en fout complètement.
Mais là, c'est
le
scénario aussi. Son intérêt,
non, parce qu'on a l'atmosphère, là, on ne l'a pas. Vous n'allez pas comparer. Vous n'allez pas comparer.
Je retire le grand sommeil chez The Patrick, mais...
Que... Oui. Moi je veux dire, personnellement,
j'ai touché un point qu'il ne fallait pas toucher, mais je retiens que le scénario est aussi incompréhensible.
Vous parlez de revisitation de mythes, mais moi c'est ce qui fait justement que je me suis profondément ennuyé dans ce film. Je ne vois pas aucun intérêt à revisiter quelque chose qui n'existe plus. C'est comme les gens qui revisitent des westerns, mais quel est l'intérêt? C'est mort, le film noir américain est mort. Alors quel est l'intérêt à y redonner vie?
Le cinéma passe son temps à revisiter.
Mais oui, absolument.
Passe son temps à revisiter.
On continue à faire des Jeanne d'Arc, même si.
Bon, allez voir le film, je dois aller tous voir le film.
Non, mais là, effectivement, Georges, je crois que là, tu touches un point clé. C'est effectivement, est-ce qu'on a le droit de revisiter un genre? Bon, si on dit non, à ce moment-là, ce film, n'allez surtout pas le voir. Si on dit oui, il y a un certain intérêt à voir ce qu'on peut faire de différent avec un genre qu'on a bien connu. Ça peut être vrai pour le western film noir. Je pense que ce film est intéressant. Donc voilà, c'est une question de position.
J'ai l'air avec un certain enthousiasme, parce que Dieu, si j'adore ces films noirs américains, une fois que je suis là, je me dis, pourquoi ce film? Alors, c'est un film qui m'a paru inutile.
Bah, je ne te comprends pas, parce que c'est tous les remakes qui sont inutiles.
Bah, oui. Alors,
mais bien entendu, parce que c'est le principe du remake.
Non, mais c'est, vous voyez que c'est un film clivant. Mais
on va pas se mettre d'accord, c'est beaucoup mieux comme ça.
Je suis même allé jusqu'à le voir deux fois pour essayer d'améliorer
c'est très louable.
D'améliorer l'impression que j'en ai eue.
Tu l'as vu deux fois? Tu l'as vu deux fois?
Je l'ai vu deux fois et je me suis ennuyé deux fois.
Voilà. Vous voyez jusqu'où va la conscience professionnelle.
Continuons. Bien, écoutez, on va continuer peut-être. On va aborder donc le film suivant, qui est Une vie cachée. Et nous allons reprendre donc avec cette vie cachée de Terrence Malick, film qui a reçu le prix du jury œcuménique au Festival de Cannes. Disons-le tout de suite, je crois que nous sommes nombreux à avoir réagi ainsi. Il y avait quelque chose de totalement décourageant dans la façon dont dans ces derniers films, Terrence Malick faisait fi de tous les principes classiques de la narration. Avec Une vie cachée, il retrouve, j'allais dire enfin... une dramaturgie classique et une chronologie rigoureuse. Le film s'inspire très fidèlement de l'histoire de Franz Jägerstätter, paysan autrichien vivant une vie idyllique avant la Seconde Guerre mondiale, marié, père de trois filles. En 1940, après avoir fait ses classes, de retour dans son village, il commence à exprimer son rejet du régime nazi et refuse avec une détermination absolue de jurer fidélité au Führer. Argumentation, pression, menace, rien n'y fait. Sans violence, sans cri, avec la plus grande douceur, il poursuivra jusqu'au bout, jusqu'à la mort, son chemin de résistance. Jacques, comment tu as réagi?
J'ai d'abord été ému et impressionné par ce film, autant par le sujet d'ailleurs que par la manière dont il est traité. Et puis aussi, heureusement surpris, car comme toi, les derniers films de Terrence Malick m'avaient beaucoup déçu. Le film commence, comme tu l'as dit d'ailleurs, dans une espèce de paradis terrestre, ce village autrichien où on voit des faucheurs exécuter leurs gestes ancestrales dans des champs de blé d'or sur un fond de pic enneigé. On retrouve cette vie champêtre élégiaque d'ailleurs de son film le plus célèbre, Les Moissons du Ciel. Hein. Le chalet de France est accueillant, lui-même et sa femme travaillent dur, mais leur bonheur, avec notamment leurs trois petites filles adorables, semble parfait. Et puis, peu à peu, l'image idyllique se craquelle. C'est d'abord juste un bruit d'avion dans le ciel.
Oui.
Puis c'est les vociférations d'Hitler à la radio. Et puis c'est la lâcheté, la peur, la crainte de se faire remarquer qui s'installe dans le village. Et l'atmosphère devient plus lourde, les voisins hostiles, le maire menaçant.
Quand le seul qui résiste, c'est Franz.
Oui. Il résiste, mais au début, la menace demeure diffuse. Et même d'ailleurs, lorsqu'il fait ses classes, je crois que c'est en 41, cela reste plutôt...
40.
Cela reste plutôt un jeu. C'est lorsque Franz est appelé, en 1943, que sonne pour lui l'heure du choix. Alors, il pourrait fuir dans la montagne, comme beaucoup d'autres, mais il choisit de ne pas le faire, de rejoindre l'armée et de refuser de servir. Il est très croyant, il refuse de participer à une cause qui n'est pas juste, et en jurant fidélité au Führer, de cautionner une politique que sa conscience condamne. Il dit « Comment puis-je faire ce que je sais être le mal ?» Alors son avocat lui dit de demander à être infirmier, pour ne pas verser le sang, donc d'être objecteur de conscience, mais il s'entête, car il lui faudrait quand même prêter serment. Tous dans son entourage essaient de convaincre Franz que son geste ne changera absolument rien, sinon rendre malheureux sa femme et ses enfants. Son avocat, bien sûr, mais aussi le curé de son village, et même jusqu'au vieux gradé qui préside le tribunal militaire, tous l'adjurent de céder. C'est la gratuité de son geste, en fait, qui rend son attitude folle aux yeux des hommes et aux yeux de tous ces gens-là. Mais c'est aussi cette gratuité qui en fait le prix pour Franz, car c'est le signe de sa liberté.
Et que dire de la forme cinématographique ?
Alors, pour évoquer cette histoire extraordinaire, il fallait que la forme du film soit à la hauteur du sujet. Malick fait de cette histoire un mélodrame lyrique qui associe des images très travaillées, qui rapprochent les visages et les corps, subliment les paysages, et une bande-son très très présente qui transforme le film en une sorte d'oratorio, ouais. Dont les lettres échangées par les deux époux et lues en voix off sont pour être les récitatifs. Alors, on peut bien sûr trouver tout cela un peu grandiloquent, mais on peut aussi lui trouver, moi ça a été ma réaction, une grande force à cette mise en scène.
Jean-Michel, est-ce que toi aussi tu étais sensible à la force de cette mise en scène,
non,
comme dit Jacques ?
Pas du tout, moi je suis aux antipodes de ce ressenti. Je suis resté très à l'extérieur de ce que je considère comme un long pinsum, plein de bondieuseries de près de 3 heures et d'une véritable soupe poético-mystique. Et j'ai rêvé, notamment lors de 2 ou 3 scènes d'échange entre Franz et un prêtre ou un responsable nazi, j'ai rêvé de ce que Dreyer ou Bresson auraient fait de ces débats éthiques en moins d'1h30 avec une économie de moyens.
Tu arrives vraiment les dieux opposés là. Hein.
Avec une économie de moyens dont Malick n'a même pas idée. Non, j'ai pas été convaincu par le personnage de Franz. À la mine peu engageante, en plus, illuminé ou autiste, victime d'un entêtement maladif ou porteur d'une rectitude ou d'une rigidité morale exemplaire, interprété par un acteur qui paraît embarrassé par son personnage et ne pas y croire lui-même. Alors le côté répétitif du déroulement narratif est également d'un ennui profond qui fait alterner jusqu'à la nausée les scènes d'imagerie paysanne façon réalisme socialiste.
Oui, Jean-Michel, on a compris que tu n'as pas du tout aimé François.
Non, et les scènes brutales qui semblent avoir perdu tout contact avec ses semblables et sacrifient sa famille avec lui. Je ne comprends pas ce personnage. D'accord. Et alors, je ne parle pas d'éthique formelle du cinéma que tu as évoqué.
Un saint est par définition incompréhensible.
Oui, incompréhensible.
Je pensais bien, Jean-Michel, que tu n'aurais
et
pas
les
aimé.
Les tics formels sont épouvantables. Mais les grands angles anamorphosants.
Jean-Michel, laisse parler les autres, tu veux. Françoise.
Bon, alors, je vais dire que moi, j'y suis allée reculons, parce que je n'avais pas apprécié les derniers films de Malick, et que je me suis dit, dans un premier temps, il y a quand même un peu de trop. Là, je rejoins Jean-Michel, mais c'est le seul endroit où je le retiens. Un peu trop de ciel lumineux, trop d'idylle montagnard, de trop de ceci et trop de cela. Mais j'en sors très émue, très profondément émue, parce que ce film aborde des tas de choses qui, moi, me concernent personnellement. En particulier, l'irruption du mal, et j'aime bien cet extrait de Leni Riefenstahl, où le mal arrive par le ciel, comme dans le Triomphe de la Volonté. Et ce qui m'a paru encore plus intéressant que l'irruption du mal, et que j'ai vu nulle part ailleurs, c'est le bien. Et je me dis, le mystère, c'est pas le mal. Le mystère, c'est le bien, parce que cet homme est un mystère. Et je me suis dit que ce film nous montrait la bouleversante absurdité du bien. Ça m'a sidéré, c'est la première fois que je voyais ça. Et j'ai aimé également, en fait, la célébration de la beauté du monde. On peut voir là, en effet, peut-être de l'emphase. Moi pas. Je dis la célébration de la beauté du monde, qui est une beauté biblique. Et puis cet homme qui lit les psaumes dans le plus profond de sa détresse et qui lit « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans le vert pâturage. » J'étais très ému.
Oui, moi aussi. Enfin, en général, je n'aime pas Malick. Enfin, du moins, les derniers, je n'ai pas du tout aimé. Et là, je dois dire que j'ai porté avec un mauvais préjugé que j'ai beaucoup aimé ce film. Je trouve que c'est déjà un très beau prix du jury œcuménique. Je trouve que c'est ce très beau film sur la résistance et sur la foi, et sur la résistance à cause de la foi. Je trouve qu'en tant que croyant, ça me touche profondément. Je suis très admiratif de cet homme qui dit « Je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas faire ce que je crois être le mal. » Et rien ne fait changer. Et puis, une forme de résistance également aussi qui m'a beaucoup impressionné, c'est que la plupart du temps, très souvent, une résistance se traduit par des actes, se traduit par soit en s'engageant avec d'autres pour se battre, soit en se faisant exploser. Lui, il dit non. C'est un non définitif, il ne bouge pas d'une pierre parce qu'il ne peut pas le faire. Et ça, j'ai trouvé que c'était très beau. Et puis, que la réalisation, j'ai trouvé que pour une fois, il y avait justement un mélange entre la espèce d'envolée mystique qui caractérise toujours Malick, et au contraire, des sens extrêmement sobres qui passent très fort, je trouve.
Sobre est un adjectif qui ne convient pas à Malick.
Il y a même un moment où je vais te faire bondir, Jean-Michel, mais je trouvais qu'il y a des moments où il ressemble carrément. Il fait penser à du Bresson. Je pense qu'il y a des plans dans la cellule où on le voit de dos face à sa table, face à ses murs, qui fait penser à du Bresson.
C'est l'anti-Bresson.
Je suis assez d'accord avec toi. L'opposition entre les scènes lyriques de la campagne et puis les scènes de la prison est assez forte.
Oui.
Alors, il y a aussi autre chose qui sur lequel moi j'allais un petit peu à reculons et qui finalement à l'usage marche assez bien. C'est le fait que les personnages principaux parlent en anglais, alors que autour, on parle allemand.
Oui.
Alors ça m'est paru un choix assez bizarre. Et en fait, toujours dans cet esprit un peu d'oratorio ou d'opéra, je trouve que ça fonctionne un peu comme un chœur. C'est-à-dire qu'il y a les acteurs principaux, les chanteurs principaux qui... Et derrière, il y a les chœurs.
C'est une bonne idée, ça. J'y ai pas pensé, ça m'avait gêné, tu vois.
Ce qui est intéressant, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans ce film, parce que c'est poussé à un point, alors parfois peut-être un peu excessif, là je rejoins un tout petit peu Jean-Michel, les anamorphoses, l'usage déformant du grand angle est un peu trop systématique.
C'est insupportable.
Là, je mets un bémol. Par contre, je trouve que le travail sur la bande-son, associé à ces images, est absolument fascinant. Ça vaudrait le coup d'analyser. Il y a une image, par exemple, qui m'a frappé. À un moment, pendant le procès, il y a une espèce de procureur, d'accusateur qui vocifère en allemand.
Oui.
Et sa voix est peu à peu couverte par une musique religieuse.
Il éructe, il y a une musique.
Donc en fait, là, l'action, elle n'est pas liée uniquement à la parole ou à l'image, elle est liée à la combinaison de la musique. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose qui est original dans ce film.
Absolument.
Ça dure 3 heures et c'est insupportable.
Ça dure 3 heures, c'est vrai, mais voilà.
Mais il y a des gens qui vont ne pas le supporter, puis d'autres qui vont le supporter, voilà, c'est normal pour un film.
Mais enfin, il aura les prix du jury œcuménique, hein, ça, dans beaucoup d'endroits, c'est sûr.
Mais chers amis, il faut s'arrêter maintenant, parce que sinon, on ne pourra jamais passer les coups de cœur. Jean-Michel, à toi le premier, Sympathie pour le diable.
Alors, Sympathie pour le diable, ça, c'est pas du tout pareil. Hein. C'est pas du tout pareil, c'est un film qui est difficile à supporter pour d'autres raisons. Il est adapté du livre éponyme écrit en 97 par le grand reporter Paul Marchand. C'est le premier long-métrage du réalisateur québécois Guillaume de Fontenay. En 92, dans Sarajevo, assiégé par les Serbes depuis un an, Marchand tente de rendre compte de l'horreur dont il est témoin à travers des reportages réguliers pour les radios francophones. Les civils sont les premières victimes et les casques bleus restent impuissants à arrêter le massacre. Et pour mieux nous faire comprendre la complexité et l'absurdité de ce conflit, le réalisateur nous plonge sans voyeurisme misérabilisme aux côtés d'un marchand conduisant à toute allure sa Ford d'un point à un autre, accompagné de son interprète féminine Boba. Et on sort groggy dès 1h40 de projection, car le film ne nous épargne rien. On pouvait craindre que ce portrait ne tente d'en faire une figure héroïque. Il n'en est heureusement rien et le reporter, superbement habité par Nils Schneider, apparaît comme ambivalent, complexe, coléreux, tout autant repoussé que fasciné par ce qu'il vit. Ce film, à la mise en scène nerveuse et tournée caméra à l'épaule, provoque anxiété et tension et remet non seulement en mémoire le siège qui dura 4 ans, faisant 12 000 morts, 50 000 blessés et une moyenne de 330 obus par jour, mais permet de comprendre les questions éthiques que se posent sur leur profession les correspondants de guerre écartelés entre le devoir de réserve et la compassion envers les victimes d'un conflit.
Oui, bon, je n'ai pas vu ce film. Moi, parce que je crois qu'il n'y avait pas d'autre réaction. Françoise, tu veux parler de maître de It Must Be Heaven?
Oui, alors, ça n'a rien à voir. Hein. It Must Be Heaven de Elia Suleiman. Après 10 ans de silence, ce film est vraiment un cadeau. On avait tellement aimé Intervention Divine, en 2002, on avait tellement aimé Le Temps qui reste, puis plus rien. Alors, merci pour cette quête dans Paradis, qui arrive sur nos écrans, sauf que, connaissant notre auteur, le paradis semble encore bien loin et que le ciel peut attendre. Cette fois encore, Suleiman est acteur dans son film, il en est même l'acteur principal, un acteur mutique. Buster Keaton n'est pas mort, réjouissons-nous. Et je me suis régalée de ce mutisme-là, parce que ce film sans parole ou presque est éminemment drôle, intelligent, poétique et politique bien sûr. Le film commence en Palestine. Suleiman est en effet palestinien et citoyen israélien. Et cette double appartenance vire bien sûr à une non-appartenance qui l'interroge. Mais alors c'est où chez moi? Et on rit quand on voit Elia surgir sur son balcon pour découvrir dans son jardin un voisin un peu délicat, suivez mon regard, en train de s'approvisionner en citron. Mais tu te crois donc chez toi, chez moi? Semble interroger Elia, le regard acéré, le visage impassible. Plus loin, des policiers jumelles au poing scrutent l'horizon, une bande de jeunes surexcités dévalent la rue bruyamment. Elia observe en silence et ne se sent plus vraiment chez lui. Alors il va voir ailleurs. Et il devient ainsi le voyageur. Celui qui observe, compare, s'étonne. Les problèmes vécus en Palestine, dit-il, se sont étendus au monde entier. Le monde s'est palestinisé. À Paris comme à New York, la sécurité est devenue une obsession. La police est partout, et d'ailleurs, les pauvres aussi. Mais Suleiman ne se lamente surtout pas, il est dans la dérision qui est l'arme suprême. Elle est hilarante, la chasse aux chaises dans le jardin du Palais Royal. La lutte pour le territoire y dévoile comme jamais sa tragique absurdité. Il est irrésistible, le chauffeur de taxi new-yorkais, qui lui offre la course quand il apprend que son client est palestinien, parce qu'il n'en avait encore jamais vu. Bref, c'est un film subtil, élégant, la salle rit beaucoup, j'ai souvent ri, peut-être comme on rit pour ne pas en pleurer.
Quelques réactions, très brèves. Jacques
Moi, je ne suis pas rentré dans ce film, je dois dire que j'ai été déçu, parce que j'avais beaucoup aimé Le Temps qui reste. Et là, la partie palestinienne m'a intéressé, mais alors après Paris et New York, j'ai trouvé qu'il accumulait les clichés, que c'était des blagues de potache. Bon, je suis pas rentré dedans, mais on peut y rentrer ou pas y rentrer. Hein, moi, ça, je suis resté froid.
Moi, je veux dire que je suis vraiment rentré dedans également. J'ai adoré ce côté absurde.
Mais voilà, moi, je suis pas du tout rentré dedans. J'aime beaucoup Suleiman d'habitude. Là, j'ai trouvé que c'était très mince et que la posture éternelle de retrait du protagoniste finit par lasser avec des scènes anecdotiques et relativement banales qui se multiplient. Ça donne pas un vrai scénario. Ça finit par plus être drôle du tout.
Il y a pas, moi je
non,
suis,
mais il y a peut-être un message que j'ai perdu
suis,
hein, dans le film.
Moi je suis
non, mais c'est le genre de film, on rentre ou on rentre pas.
Jacques, toi tu voulais nous parler d'un film...
Un film brésilien.
Brésilien, La vie invisible.
La vie invisible de Ridis Kusman. C'est un film qui transpose, c'est un film de Karim Aynouz, qui transpose un roman de Marta Battaglia, Les mille talents de Ridis Gusmão. C'est une chronique familiale et sociale qui s'étend sur plus d'un demi-siècle. Le film est d'ailleurs là encore un peu long. Le film débute en 50 à Rio de Janeiro et nous montre deux sœurs qui s'adorent, Eurydice et Guida. Eurydice a 18 ans et veut devenir pianiste, et Guida a 20 ans, rêve du grand amour, s'éprend d'un beau marin grec qu'elle suit par le monde en abandonnant sa famille. Et quand, évidemment, quelques mois plus tard, elle revient chez elle, abandonnée et enceinte, son père, machiste et rigoriste, la jette à la rue, une fille mère étant une honte pour une famille de la petite bourgeoisie. Donc on est dans le mélo total. Guida devra survivre seule en faisant un peu tous les métiers et parfois en se prostituant, et elle écrira toute sa vie des lettres à sa sœur, à l'adresse de ses parents, lettres qui ne lui parviendront jamais, car elles seront bloquées par son père, et elle ignorera donc toujours que sa sœur vit non pas à Vienne ou en Europe, où elle imagine que sa carrière de pianiste l'a menée, mais à Rio, très près d'elle. Donc, il y a un côté mélodrame assumé dans cette histoire familiale, mais le film, au-delà de ça, nous touche par le regard qu'il porte tout au long de ce demi-siècle sur une société brésilienne qui est restée très machiste. Car si Guida, la fille mère, doit se battre pour survivre, le sort de sa sœur n'est pas beaucoup plus enviable. Elle a certes une belle maison, mais ce nid confortable ressemble plutôt à une prison. Et son mari, pourtant plutôt gentil, ne conçoit sa femme qu'au foyer. Et Eurydice devra se cacher pour reprendre ses études de piano et présenter le concours du conservatoire. On voudrait croire que les esprits ont évolué, mais l'élection récente de Jair Bolsonaro semble montrer que le machisme est encore bien présent au Brésil.
Oui,
donc c'est un film à la fois politique pour ça.
J'ai une conclusion. Et moi, je voudrais terminer en parlant d'un film qui m'a énormément touché. Il s'agit de Proxima, d'Alice Vinocourt. Cela se déroule dans un futur éloigné, mais pas tant que ça, peut-on penser. En ce temps-là, en ce temps du film, la conquête spatiale a progressé, l'homme a étendu son territoire cosmique. Sarah, mère d'une petite fille de 8 ans et astronaute qui travaille à Cologne pour l'Agence spatiale européenne, se prépare à partir pour une mission d'un an sur la planète Mars. De Cologne, elle va gagner le cosmodrome de Baïkonour, d'où sa fusée doit décoller. Alors, s'agit-il d'un film de science-fiction ? Mais pas un instant. Du moins, si on associe à ce terme les images attendues d'un road movie galactique. Car ici, on reste sur la Terre. Le sujet, ce n'est pas le voyage, c'est la préparation au voyage. Le film se termine quand décolle la fusée qui amène Sarah vers Mars. Et alors, quelle émotion ! Car le moment le plus intense dans tout voyage, c'est le départ. C'est le moment où le train quitte le quai, où le bateau coupe ses amarres. C'est le moment où la fusée décolle de son pas de lancement et s'arrache à la Terre. C'est le moment de la séparation. Et ce film est avant tout un film sur la séparation. Pour Sarah, d'une séparation avec la Terre, ce n'est déjà pas rien, mais aussi d'une séparation avec sa fille Stella, et c'est encore plus difficile. Pour Stella, il s'agit d'une séparation avec sa mère, séparation qui pourrait être définitive. Il y a quelque chose du sarcophage dans ces coquilles moulées où l'on enferme les corps des astronautes. À la fois sensible, précise et sobre aussi bien dans la technicité du métier de Sarah que dans sa relation avec sa fille, remarquablement soutenue par l'interprétation d'Eva Green et de Zélie Boulan-Lemel, Alice Vaucourt décrit admirablement toutes les phases de cette préparation au départ qui vont jusqu'à l'envol. Et s'il fallait citer une scène qui m'a paru particulièrement poignante dans sa bouleversante sobriété, ce serait celle où Sarah parle à Stella à travers une vitre. Celle qui, alors que l'on est à la veille du départ, sépare Sarah, mise en quarantaine, de sa fille. Celle qui sépare la fille, qui est encore ici, de la mère, qui est déjà ailleurs. Quelques réactions ?
Bah écoute, j'ai pas vu le même film que toi. Pas du tout le même film que toi. J'ai trouvé à ce film aucune espèce d'intérêt. Je me suis emmerdé comme c'est pas possible. Pourquoi le titre ? Préparation d'une expédition spatiale, je m'en contrefiche. La relation mère-fille, d'une grande banalité. Et je comprends pas ce qu'on trouve à ce film. Bon, je n'ai pas vu ça.
Pour que vous ne restiez pas sur cette impression, c'est un bon film, très intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé comme Jean. En fait, ce que j'ai aimé dans ce film, c'est que justement, il prend le contre-pied des films galactiques et que ce qu'on nous montre, c'est la séparation d'une mère et de sa fille, mais à la limite, en un tout petit peu plus exacerbé, mais c'est une situation qu'on peut trouver dans beaucoup de familles qui, pour des raisons professionnelles ou autres, ou de maladies par exemple, se retrouvent séparées. Donc c'est ça qui est intéressant dans ce film. Là, le côté symbolique finalement du départ vers l'espace est en plus pour souligner l'événement que autre chose, puisqu'en fait le film se termine quand la fusée décolle, comme tu l'as dit.
Oui.
Donc c'est bien avant que c'est intéressant. Donc j'ai trouvé un film assez sobre et émouvant, quoi.
On l'a vu ça 100 fois.
Ouais, je sais pas si je vais en parler. Moi, j'ai été émue au plus profond de moi-même. C'est un film que j'ai trouvé émouvant, pudique, et qui parle du grand voyage qui parfois est la mort. Et ce grand départ, en l'occurrence, c'est celui de la mère d'une petite fille de 8 ans qui lui dit « Est-ce que tu vas mourir avant moi ?» C'était presque au-delà de ce que j'ai pu supporter. Sarah va donc monter au ciel dans sa fusée. Elle en reviendra peut-être, mais surtout, la petite fille, elle va rester sur la Terre. J'ai trouvé ce film magnifique, bouleversant. Bon, chacun a ses raisons.
Oui.
Mais je crois que c'est un film qui vaut la peine d'être vu, quoi. Il vaut la peine d'être vu.
Eh bien, voilà. Voilà pour cette émission. Je crois qu'il est venu le temps de nous quitter sur Fréquence Protestante. Alors, merci à Françoise, à Jean-Michel et à Jacques qui ont animé cette émission. Merci à Arnaud qui en a assuré la réalisation technique, et merci à tous ceux qui l'ont écouté, à qui nous souhaitons un joyeux Noël, et disons à l'année prochaine, et que nous invitons à nous rejoindre dans notre prochaine émission Chant contre Chant, qui aura lieu le mardi 28 janvier de 13h15 à 14h.